Alors tout ceci m'amène à mon tout dernier point, qui sera donc très rapide afin qu'on puisse échanger sur ces quelques remarques, c'est le problème des fonctions des œuvres traduites. À quoi servent-elles ? Bon, là aussi j'ai plusieurs petites rubriques. Rapidement. Bon, la première, pour moi la plus importante, c'est que les langues, ça nous rappelle que les langues délimitent des espaces de pensée. Hein ? Il y a une phrase de Heidegger que j'aime bien, qu'on peut traduire tant bien que mal en français, qui est « Wir sprechen, insofern wir der Sprache entsprechen ». Nous parlons dans la mesure où nous correspondons à la langue. La langue, parlons-nous. Je n'insiste pas sur ces points. Deuxième aspect, deuxième fonction, c'est l'enrichissement que les œuvres traduites apportent, non seulement dans l'histoire des idées, non seulement dans le vocabulaire, mais aussi par le déracinement qu'elles apportent. Alors, je sais très bien, et je l'ai éprouvé parfois en essayant de déraciner parfois un peu trop mes étudiants français, attention, par les temps qui courent, faut pas trop déraciner les gens. Hein. Mais quand même, c'est comme un des plaisirs de la littérature comparée que de chercher toujours des choses différentes de celles qu'on peut connaître. En même temps, on voit dans certains cas que ce qui pour nous reste un peu un phénomène étranger peut être dans d'autres cultures quelque chose qui est intégré. J'étais étonné ce matin, pas étonné parce que ça m'a plutôt conforté dans mon opinion, que lorsqu'il a été question des traductions d'œuvres étrangères dans les bibliothèques de Lyon, il était question de l'allemand, de l'anglais, du russe, etc., il n'a pas été question du latin et du grec, parce que ces deux langues, ces deux civilisations ne sont pas considérées comme des étrangères, apparemment. Hein ? Bon, nous avons un système dans lequel nous avons littérature française, éventuellement littérature francophone, mais pour ma part, la littérature francophone inclut la littérature française. Pour moi, c'est clair. Mais enfin, c'est une position relativement minoritaire, je dois le reconnaître. Bon. Littérature étrangère, les premières chaires ont été en France de littérature étrangère au singulier. Hein, c'était la littérature étrangère. Hein. Et c'est encore l'expression au singulier que j'ai très souvent entendue ce matin. Et puis, il y a les littératures anciennes, littérature classique. Bien. Bon, donc nous avons ce système-là, mais en anglais, en Angleterre par exemple, si vous prenez le livre des citations, les citations de la Bible, de Quotations of English Literature par exemple, vous trouverez que le Book of Common Prayer, le livre des prières en commun, qui est traduit du latin, fait partie des traductions, fait partie du bien culturel anglais. La Bible fait partie du bien culturel anglais. C'est situé. Il y a encore ce qui est le problème de place. Hein, j'ai regardé dans l'édition de 1943. Après, ça a changé. Vous avez un certain nombre de textes anglais, les Quotations of Bible, et puis vous avez ensuite des traductions, quelques autres traductions, une sélection d'autres écrivains anglais. Autrement dit, la Bible fait partie de la culture anglaise. C'est quasiment un texte anglais. Bien. Bon, je n'insiste pas sur le fait que des problèmes de traduction ont joué aussi des rôles extrêmement importants dans des problèmes politiques ou autres. La résolution 242 des Nations Unies, withdrawal of the occupied territories, retrait des territoires occupés. Est-ce que c'est tous les territoires ? C'est le cas pour la version française. Est-ce que ça peut être certains territoires ? C'est le cas de la version anglaise. C'est entre Israël après la guerre des six jours, Israël et les pays arabes. Bon, troisième point de cette dernière partie. Bien sûr, dans ces conditions, je crois qu'ils ont tout intérêt à essayer d'avoir une histoire des traductions. Hein. J'en ai peu parlé, je vais parler par allusion à plusieurs reprises, mais c'est une des choses que je voudrais faire dans les années qui viennent, si c'est possible. Hein. Cette histoire des traductions en langue française, parce que je crois qu'ils auront beaucoup de choses à apprendre hein, sur la façon dont la culture en France, mais pas seulement en France, quand nous disons histoire des traductions en langue française, c'est histoire des traductions non seulement littéraires, mais aussi scientifiques, philosophiques et autres. Et puis, c'est des traductions qui ont été faites en France, mais aussi au Québec, mais aussi en Romandie, aussi en Wallonie, et également dans des pays comme à Bucarest, en Roumanie, à Saint-Pétersbourg. Tout pays ou ville, ou bien les Pays-Bas, au XVIIIe siècle. Bon. Ensuite, cette histoire des traductions peut nous amener sur des problèmes, je dirais, assez concrets, de propositions de numérisation de traductions à faire, dont nous avons besoin. Peut nous amener aussi à suggérer qu'il y a des traductions à refaire. Par exemple, je parle de ce que je connais un peu, c'est-à-dire la fin de la littérature du 19e siècle, début du 19e. Je pense que des traductions de Grillparzer, de Palacio Valdés, de Matilde Serrao, l'italienne, de La Pardo Bazán, en Espagne, là, nous manquons de traductions, non seulement à faire, mais parfois aussi à refaire. Bien. Autre point encore, ce sera l'antépénultième. Je pense qu'une œuvre traduite peut modifier, bien sûr, la lecture de l'œuvre originale, non seulement dans son pays dans lequel elle aboutit, le pays cible, mais dans d'autres. Un exemple, Die Verwandlung de Kafka. La première traduction anglaise s'appelle The Transformation. C'est une traduction. Harry Vialat, qui traduit La Métamorphose. Le couple Mua, qui avait traduit The Transformation, reprend sa traduction et l'intitule Metamorphosis. Que serait-il passé si l'œuvre de Kafka avait été connue sous le titre La Transformation et non pas La Métamorphose? Or, on voit réapparaître aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir ça à Barcelone il y a quelque temps, des traductions en espagnol et en catalan qui reprennent La Transformation comme titre. Bon. Donc, je pense que ce sera vérifié, mais que le titre La Métamorphose, peut-être dû à Vialat, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre, a joué un rôle important dans la lecture de ce texte. Je prendrai un autre exemple. En France, nous connaissons la parabole célèbre de Luc, chapitre 15, versets 15 à 32, je crois, ou 12 à 32, l'enfant prodigue. Nous sommes une des rares civilisations à parler d'enfant prodigue. Bien sûr, beaucoup de civilisations parlent de prodigue, les Anglais, prodigal son, par exemple. Mais enfant prodigue, enfant, la plupart des pays où cette parabole est citée parle bien sûr de fils prodigue ou de fils perdu vers leur zone. Parler de fils ou parler d'enfant, ce n'est pas la même chose, hein, du tout. Et perdu ou prodigue, également pas. J'ajoute encore, avant de conclure, pourquoi aussi ne pas lire des traductions en d'autres langues d'œuvres françaises? J'ai entendu des comparaisons de traductions anglaises de l'œuvre, d'extrait de Madame Bovary en anglais, c'est extraordinaire, parce que sur un point au moins, j'ai pour la première fois compris un passage de l'œuvre de Flaubert, à cause du choix qu'avait fait un des quatre traducteurs anglais qui était présenté. Hein? Bon, donc je pense que c'est aussi des choses que l'on peut faire. Et tout ceci devrait aboutir, ce serait mon tout dernier point pour cette fonction des traductions, je pense qu'il faudrait vraiment que nous pensions aussi à former des maîtres, à former des professeurs, justement un petit peu pour nous apprendre les uns aux autres à lire les traductions. Et là, je pense que il y a un prurit de réforme en France qui fait que c'est une telle proposition, on n'a absolument aucune chance de retenir l'attention de qui que ce soit, mais quand même, peut-être que par la suite, ça viendra.